Des mots pour le dire.
Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous. On s'est absenté une semaine là pour prendre des vacances comme tout le monde en Languedoc-Roussillon, on se reposer, se retirer un petit peu l'esprit pour revenir en pleine force avec déjà pour démarrer cette citation de Hegel qui dit « En art comme dans toute œuvre humaine, ce qui importe est le contenu ». Ou bien comme le disait Claude Lelouch, puisque nous sommes dans l'actualité de Cannes, Cannes c'est d'abord un escalier facile à monter et difficile à descendre. C'est... Bonjour Michel.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Alors, on se retrouve avec plaisir donc pour aborder aujourd'hui avec ces deux citations, en fait c'est l'esthétique de la modernité.
Voilà, nous allons, il s'agit du dernier chapitre de mon livre, Comprendre la culture générale, paru chez Ellipse. Il s'agit du chapitre 13, intitulé Esthétique de la modernité. Et la phrase de Hegel que vous avez citée, c'est l'épigraphe de ce chapitre. En art, comme dans toute œuvre humaine, ce qui importe est le contenu. Phrase de Hegel dans son livre intitulé « Esthétique ». L'esthétique renvoie au mot grec « aesthésis », qui veut dire « sensation ». Donc, je vais développer deux points, mais nous déborderons dans les émissions futures. Un, l'esthétique est une notion moderne. Et deux, la modernité tout entière peut être vue comme une esthétique, c'est-à-dire un état de choses où la sensation prime sur le contenu, même intellectuel, des choses. Avant de venir, je réfléchissais dans ma voiture à l'évolution, par exemple, de la musique. Eh bien, on constate en musique un déclin, dans la chanson, par exemple, un déclin progressif de la mélodie qui était intellectuellement mémorisable au profit du rythme. Voyez par exemple l'évolution de Gainsbourg, qui a fait des chansons au début de sa carrière à contenu intellectuel, hein, et qui a terminé, à partir de sa Marseillaise en reggae, ou bien des chansons comme Love on the Beach, etc., par la pulsation élémentaire, une psalmodie qui peut nous hypnotiser, certes, mais qui risque de ne plus faire penser à rien. Vous voyez, Redouane. Donc, l'esthétique, c'est le primat de la sensation sur, la réflexion. C'est donc une notion moderne et qui renvoie à une attitude moderne. Cette notion consiste à considérer les œuvres d'art dans leurs caractéristiques seulement formelles. Et figurez-vous, Redouane, que l'idée même de l'art ou l'idée même d'œuvre d'art tel que nous l'entendons aujourd'hui, hein, cette idée n'a pas toujours existé. Alors là, je m'inspire d'un grand penseur qui a bien écrit sur l'art, c'est André Malraux. Dans « Les voies du silence », il insiste là-dessus, « Avant d'être des œuvres d'art, les œuvres étaient autre chose que des œuvres d'art. C'était des manifestations du sacré, c'était des témoignages spirituels, des incarnations de philosophie ou de vision du monde. Et la culture qu'elle manifestait était de toute façon plus importante qu'elle. Les œuvres n'étaient qu'un moyen d'exprimer quelque chose qui les dépassait. On pourrait dire en termes modernes que le médium était toujours subordonné au message. Vous voyez, à l'inverse de ce que dit McLuhan, à savoir que le message, c'est le médium lui-même. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'époque est strictement formaliste. Hein. Finalement, l'œuvre risque d'être autoréférentielle. Hein. Si l'on suit la phrase de McLuhan, le message c'est le médium, eh bien il suffit justement que quelque chose passe à la télé pour qu'elle soit intéressante. D'où le slogan « Vue à la télé » si vous voulez. Hein. Bon, et là est la mutation décisive de la modernité. La modernité seule connaît l'esthétique, c'est-à-dire l'art, la forme dans ce qu'elle a d'autonome. Elle est énigmatique dans le meilleur des cas, hein, les formes y cherchent un contenu perdu, et elle est problématique dans le pire des cas, les formes y sont sans contenu. Il peut y avoir même une déréalisation complète, une forme sans substance. Et ainsi se parachève cette déculturation dont nous avons, Redouane, vous et moi, dénoncé les effets catastrophiques pour l'époque moderne. Aujourd'hui, on pourrait dire que l'abstraction, au sens d'éloignement du contenu, abstraire, est totale. Et donc, l'art présente un étrange caractère. Il est comme un temple qui subsisterait et dont les croyances seraient disparues. La forme va surnager vide sur un néant de signification. En effet, vous serez d'accord avec moi, Redouane, qui dirait qu'un masque africain, un fétiche polynésien, une vierge romane sont des œuvres d'art, hein? Non, c'était à l'origine des objets magiques.
C'est un peu comme on oui. dit les l'art primitif.
Voilà, ah, voilà.
Qu'est-ce que signifie l'art primitif?
Oui, eh bien, ce n'était pas de l'art au sens moderne, au sens de forme autonome. Il s'agissait d'objets magiques à signification religieuse, hein. Notez que l'anagramme de image, c'est magie, hein. Si on renverse les lettres, on a magie. Et Régis Debray insiste bien là-dessus dans un livre essentiel qui s'appelle « Vie et mort de l'image ». Mais quand la statue romane, prenons l'exemple de la statue romane, quitte l'église où elle est priée, hein, pour entrer au musée où elle est admirée, alors sa signification va changer. Le regard va la transformer, la faire autre. Et alors naît ce que nous entendons par art. Nous admirons la forme de l'œuvre qui va voisiner désormais avec d'autres œuvres, tout à fait différente par l'origine et parfois totalement opposée par l'esprit. Et cette juxtaposition que nous faisons unit des œuvres qui sont rapprochées par leurs éléments communs, les caractéristiques de leur forme seule. Mais que savons-nous désormais de ce que les œuvres voulaient dire? Elles sont coupées de leur contexte d'origine, de ce qu'on pourrait appeler leur englobant, hein. L'esthétique nous dispense de le chercher. Nous dirons, il y a de belles formes dans telle statue, etc. Et par l'esthétique, les œuvres se séparent de leur fonction originaire, qui était de manifester le sacré, pour entrer dans un autre monde, celui des formes autonomes. Donc les œuvres s'abstraient de leur sphère de naissance. Et le regard que nous portons sur elles aussi est un regard totalement abstrait, puisque nous n'avons plus de contact avec ce que ces œuvres signifiaient initialement. Une statue antique, par exemple, pour un chrétien du Moyen-Âge, était soit rien, hein, soit une œuvre ennemie, une œuvre païenne qu'il fallait combattre. Mais aujourd'hui, dans le musée, nous unissons la statue antique, la statue romane, la statue gothique en tant que statue. Et en fait, le monde antique, aussi bien que le monde roman et le monde gothique, nous ont quittés irrévocablement. L'esthétique ou le regard esthétique, c'est pour nous le deuil forcé de leur disparition. Il nous reste des formes, mais quid de leur sens? Quel était leur sens à l'origine? Alors là, je vais vous citer un passage de Heidegger dans « Chemin qui ne mène nulle part ». C'est bizarre comme titre, ça. C'est pas très vendeur, hein, Redouane. « Chemin qui ne mène nulle part ».
C'est une impasse.
Bon, voilà. Alors, le chapitre s'appelle « L'origine de l'œuvre d'art ». Et Heidegger oppose, à propos des œuvres, l'être-objet et l'être-œuvre. Donc, je lis. « Les œuvres elles-mêmes se trouvent donc dans les collections et les expositions ». Mais sont-elles bien là en tant que les œuvres qu'elles sont, n'y sont-elles pas plutôt en tant qu'objet de l'affairement autour de l'art, hein? On les met à portée de la jouissance artistique, publique et privée, des autorités officielles ont soin des œuvres, s'occupent de leur conservation, les critiques d'art et les connaisseurs s'en occupent même intensément, le commerce des objets d'art veille à pourvoir le marché. L'histoire de l'art transforme les œuvres en objet d'une recherche scientifique, mais au milieu de tout cet affairement, je continue de citer Heidegger, hein, est-ce que nous rencontrons encore les œuvres? Et Heidegger conclut en disant, les sculptures d'Égine au musée de Munich, l'Antigone de Sophocle dans la meilleure édition critique, là il parle de littérature, sont en tant qu'œuvres arrachées au rayon de présence qui leur est propre. Leur ordre a beau être élevé, leur pouvoir d'impression imposant, leur interprétation sûre, placées dans la collection, elles sont retirées de leur monde. Et même si nous nous efforçons d'annuler de tels déplacements, ou du moins de les éviter, par exemple en allant voir sur place le temple de Paestum ou la cathédrale de Bamberg, toujours exemple de prix par Heidegger, le monde dont ces œuvres faisaient partie s'est écroulé. Le retrait et l'écroulement d'un monde, conclut Heidegger, sont à jamais irrévocables. Les œuvres ne sont plus ce qu'elles ont été. Tout l'affairement autour des œuvres d'art, si poussé et si désintéressé qu'il soit, n'atteint jamais les œuvres que dans leur être-objet. Hein. Mais l'être-objet n'est pas l'être-œuvre. Hein. Alors vous voyez donc la situation de la modernité. Les églises ou les cathédrales abritent de moins en moins de fidèles et de plus en plus de touristes. On y donne des concerts, par exemple. On y fait même parfois des expositions. Hein. Mais si les temples se vident en tant que lieu de transcendance ou de sacré, les musées s'emplissent. Et s'emplissent aussi les supermarchés, parce que il y a autour de l'œuvre dans le musée tout un commerce, les produits dérivés, etc. Alors on parle de la ruée vers l'art, hein. Par analogie avec le film de Chaplin, la ruée vers l'or, hein. Bon, mais c'est absurde, hein. C'est comme quand on parle de la fureur de lire, hein. On ne lit pas avec fureur, fureur de lire, c'est un jeu de mots sur la fureur de vivre, hein. Donc, on ne se rue pas vers l'art, on n'a pas la fureur de lire, hein. Mais vous voyez, justement, nous sommes dans une civilisation de la consommation, des formes, c'est-à-dire des signes formels des œuvres, une fois perdu le contact avec leur sens, avec ce qu'elles voulaient dire au départ. Alors j'ai choisi comme première pause musicale les trois morceaux que vous allez entendre ont pour commun dénominateur la notion de musée, hein. Donc là, il s'agit d'une chanson qui s'appelle « Le gardien de musée ».
Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose. Je refuse cette galerie, c'est la mienne. Si vous me cherchez, je suis toujours posté dans un coin de la salle des mythes antiques, à côté de Vulcain, contrit et contraint de voir sa femme exposée en public. Nue sous les zéphyrs, belle à en mourir, Vénus ignore la foule des curieux. Ah, moi c'est pas pareil, il faut bien que je la surveille, je ne peux pas la quitter les yeux. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose. Je refuse, cette galerie c'est la mienne. J'ai une collègue, Fernande, de la galerie allemande, qui vient me faire du gringue pendant la pause. René, pour les vacances, il y a des vols pour Florence, en plein soleil, ça doit être autre chose, non? Je dis oui, mais sans plus. Je pense à ma Vénus dans sa coquille Saint-Jacques au bord de l'eau. Je remets vite ma casquette, j'écrase ma cigarette et je retourne à mon Quattrocento. Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. Depuis 30 ans que ça dure, je fais partie des murs, je ressemble à une momie égyptienne. Chaque année on me propose de surveiller autre chose. Je refuse. Cette galerie, c'est la mienne. Quand 18h sonne, il n'y a plus personne. Je mets mes yeux sous alarme infrarouge. Vulcain est à sa place. Cupidon, Saint-Sébastien se tiennent à carreau. Plus rien ne bouge. Je finis ma ronde devant ma fausse blonde, je rentre en feu avec ma morale. Tant que les gens s'extasient, oh, ce petit Shelley, à quoi bon rendre l'original? Je m'appelle René, je suis gardien de musée, galerie de la Renaissance italienne. 30 ans de madone, personne me soupçonne de vivre avec une blonde vénitienne. En quoi est-ce un délit d'avoir au-dessus de son lit le seul amour qui en vaille la peine?
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Terrand. Donc l'esthétique de la modernité, l'esthétique, notion moderne. Et puis, petit à petit, on a vu comment il y a une dissociation entre la nature d'une œuvre, quelle qu'elle soit,
le contenu,
et puis la forme.
La forme.
Ce qui reste, il n'y a plus que la forme.
Alors je ne sais pas si vous aimez les musées, Redouane. Valérie disait qu'il détestait les musées. Et là, dans la chanson, on entend le gardien de musée qui dit « Peu importe d'aller à Florence, je suis dans la galerie de la Renaissance italienne et donc je suis avec mes tableaux représentant Vénus, cela suffit. Donc c'est inutile de se déplacer, vous voyez. Le monde dont ces tableaux justement étaient le reflet a disparu définitivement. Il n'y a plus de vie en quelque sorte.
Voilà, je reviens, comme vous le savez, Michel, de Cappadoce en Turquie, où il y a donc en Cappadoce ces petites chapelles creusées dans le rocher, et c'est plein, rempli de visiteurs européens qui se précipitent. C'est vraiment, il faut attendre. D'ailleurs, il y a certaines petites églises, on ne peut visiter que pendant 4 minutes. Vous voyez ? Et puis on dit en même temps que nos églises se vident. Alors ça, c'est...
c'est le paradoxe.
Le musée remplace petit... Ça devient les lieux de culte, aujourd'hui.
Tout à fait. Et en plus, les gens, donc, ont l'œil rivé à leur appareil photographique et préfèrent vous prendre la photo plutôt que de regarder le lieu lui-même. Donc, ce regard esthétique... Je dirais qu'il guérit la fracture opérée par le beau. Le beau est un arrachement, c'est une déstabilisation du monde quotidien. Il y a un livre de Jean-Louis Chrétien qui s'appelle « L'effroi du beau », mais je pense aux élégies Adwino de Rilke, « Le beau n'est que le commencement du terrible ». Donc, le cri de l'ange, par exemple, va nous déceler, nous déraciner, nous arracher, justement, à notre vie habituelle. Donc, il y a un lien initial entre la beauté et la terreur. Je crois que dans une émission antérieure, j'ai parlé du maquillage. Le visage de Garbeau, par exemple, a un côté sacré et transcendant. Il évoque le masque des vieux âges, comme Barthes le dit dans ses mythologies. Et l'homme y est regardé autant que regardant. Donc, il y a dans le beau, au début, quelque chose de catastrophique. Et puis, quand apparaît l'esthétique, alors, le beau va devenir l'agréable. Ça commence avec Poussin, qui disait que l'art est... délectation, et puis ça continue avec Kant dans son analytique du beau, où il dit que est beau ce qui plaît, Donc il y a la guérison, la suture opérée de l'appel du beau, ou de la menace qu'il manifestait par rapport à notre propre vie. Certains rapprochent le mot grec kalos, qui veut dire beau, avec le verbe grec kalein, qui veut dire appeler. Donc le beau autrefois nous dévisageait pour nous accabler par la transcendance qu'il manifestait, mais maintenant, je dis souvent pour m'amuser, le beau ne nous dévisage plus, on envisage les possibilités, si vous voulez, avec certains visages que l'on voit. Donc il y a une forme indépendante du contenu. Je crois que nous avons souvent... Redouane ensemble envisager les slogans de la publicité. Regardez comment le contenu fonctionne. Par exemple, naguère, une célèbre enseigne, que je ne citerai pas, parlait des funérailles à prix coûtant. Vous voyez, funérailles à prix coûtant. Bon, c'est formellement identique à lessive à prix coûtant, hein. Mais la funéraille, c'est pas de la lessive, quand même, vous voyez. Vous aviez évoqué, Redouane, le problème du lancer de nain, hein. Formellement, c'est identique au lancer de javelot, hein. Mais effectivement, c'est incommensurable. Mais notre regard ne trouve pas d'anomalie là-dedans. Il met la même forme pour n'importe quel contenu. C'est donc la fin de toute réflexion et on ne voit plus l'obscénité de certaines formulations. Alors on peut avoir la nostalgie de l'ancien monde et du pouvoir protecteur des signes. Alors les signes, je disais tout à l'heure qu'ils étaient terrifiants, ils peuvent être aussi tutélaires, hein. En tout cas, ils étaient chargés de référents et ils renvoyaient à la référence avec un R majuscule. J'emprunte ce mot à Pierre Legendre, c'est-à-dire la transcendance, la valeur autour de laquelle nous organisions notre vie. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette valeur transcendante. Lisez dans « Les fleurs du mal » de Baudelaire le poème appelé « Le mauvais moine » ou bien dans « Alcool » d'Apollinaire le poème appelé « Zone », hein. « Si tu vivais dans l'ancien temps, tu entrerais dans un monastère », etc. Autrefois, il y avait par exemple dans les icônes le fond d'or qui incarnait le sacré. Et maintenant, Apollinaire dit « Les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie » dans le poème « Zone ». Donc on passe du fond d'or aux éclats de rire nihilistes. Le nihilisme, c'est celui qui ne croit plus à rien. Il y a un ricanement généralisé aujourd'hui. Alors on peut me trouver, comment dire, sévère. Je crois que je suis simplement lucide. Et donc, pour illustrer ce point, j'ai pris toujours dans la thématique du musée une chanson qui s'appelle Paris Musée.
Eh bien, on approche, messieurs, dames, il reste encore de la place. On ne se bouscule pas. Eh oui. Venez voir le grand musée parisien. Ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors, allons-y, on approche. Il reste encore quelques places devant. Mais on ne se bouscule pas, s'il te plaît, toi devant, tu restes tranquille. Merci. Allons-y, c'est reparti.
Venez voir les Parisiens en sirop musée Grévin. Venez voir les statues que l'on peut photographier. Venez voir Jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris, devient un musée. Admirez les vieilles pierres, les vitrines sous réverbères. Venez voir Paris. Et venez faire vos emplettes, Paris enlèvera sa robe. Paris, musée. Paris, devient un musée. Rien à craindre, tout est sécu. Un poulet à chaque coin de rue. La vieille dame ne boit que de l'eau. Bienvenue à la thalasso. Venez tous faire la fête à la maison de retraite. Une ambiance funéraire dans la grande ville aux lumières. Paris. Venez voir les Parisiens en tir au musée Grévin. Venez voir les statues que l'on peut photographier. Venez voir Jardin Bobo, visiter nos beaux ghettos. Paris, un grand Disneyland, les touristes en redemandent. Paris, musée. Paris, devient un musée. Plus s'amuser.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, donc esthétique de la modernité. Deuxième volet, toujours musée.
Hein. Voilà, Paris musée, Paris comparé à Disneyland, hein, c'est terrifiant. Les Parisiens comme statue de cire, hein, et alors, à la fin, on ne s'amuse plus, hein. Fini de s'amuser, hein, dans un musée. Bon, le touriste en Bermuda à Disneyland, hein, c'est l'homme moderne, avec au pied des tongs à marguerite, sur la tête une casquette, ou un Bob Ricard, si vous voulez. Hein, et donc, il arpente le monde en apesanteur dans l'espace. Pour lui, il n'y a que la géographie. Il n'y a plus l'histoire, si vous voulez. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, la géographie a remplacé l'histoire? C'est-à-dire, dans un lieu, il y a une histoire, il y a des sédimentations de siècles. Or, aujourd'hui, le touriste en Bermuda ne le voit plus, non, Redouane?
Oui, il y a ça, mais je me demande si ce qu'il y a, c'est que notre monde a connu une révolution sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire, on parle beaucoup de globalisation, etc. Et en fait, pendant très longtemps, il y avait des espaces géographiques qui nous étaient distants. C'était l'altérité, se trouvait là-bas, au loin. Et donc, ça m'intéressait, hein, d'aller voir ce qui se passait là-bas, au loin. Aujourd'hui, l'altérité se trouve dans le même immeuble que moi. Et tout ça s'est mélangé. On perd un peu les repères et la culture s'en ressent. C'est-à-dire, on est en train, j'ai le sentiment que en ce 21e siècle, on est en train de faire naître une culture extrêmement différente de tout ce qu'on a connu auparavant. Une sorte de métissage de la pensée qui pose question, qui doit interpeller nos contemporains, mais on ne s'en rend pas compte, effectivement, petit à petit. Et à Paris, au mois d'août, il n'y a plus de Parisiens, avec des...
voilà, des touristes dans un lieu où il n'y a plus, où le poids de l'histoire n'est plus perçu.
Hein. Le titi parisien, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui.
Voilà, tout à fait.
Paris était le symbole de la liberté, c'était le symbole de la révolution, Montmartre. Maintenant, Montmartre, c'est pas le lieu de la lutte, de la contestation, mais...
Tout à fait. La Commune de Paris, enfin, toutes ces choses-là faisaient rêver. Hein, la chanson Le Temps des Cerises, etc. La chanson de Jean-Baptiste Clément. Mais maintenant, on arpente justement les grandes villes. Et d'ailleurs, ces villes prennent des lieux qui sont totalement interchangeables. Les aéroports, les aérogares, enfin tout ça. Ça se ressent partout à la surface de la planète. Vous alliez au Brésil.
Et c'est ce qui ce qui manque un peu lorsqu'on va dans certains pays. On fait appel à des guides qui permettent justement de nous dire ce qu'il y a derrière le rideau.
Oui.
ou sous la table. Et parfois, les Européens, quand ils viennent, ou les Américains, etc., viennent à Paris ou dans certaines villes européennes sans guide. En fait, il y a le petit guide bleu, mais qui ne dit rien de spécial. C'est assez superficiel. Et rentrer en profondeur, c'est être au contact de l'habitant.
Voilà.
Et là, c'est pour ça que je dis qu'au mois d'août, en fait, les touristes ne rencontrent pas de Parisiens, ils ne rencontrent que des touristes, donc des gens qui n'ont pas de profondeur.
Mais vous savez, Redouane, que Disneyland est beaucoup plus visité que Notre-Dame de Paris, hein, ou que la cathédrale de Chartres. Hein. Il faut être lucide. Hein. Les parcs de loisirs, qui se ressemblent partout, hein, sont eux qui font les grandes entrées. Hein. C'est assez problématique parce que...
C'est le jeu du cirque. Voilà,
tout à fait. En tout cas, ce regard abstrait, c'est-à-dire détaché de l'histoire et purement formel que nous portons sur les choses, révèle notre propre déculturation. Et cette tendance est éminemment problématique. Hein. L'artiste d'autrefois... Bon, d'abord, il n'était pas artiste, il était serviteur de Dieu. Hein. Il faisait une statue à la gloire de la Vierge ou tel saint dans le milieu catholique, etc. Ensuite, l'artiste a été à l'écoute de son langage intérieur, hein, à partir du 19e siècle, du romantisme, mais il soumettait toujours l'art à autre chose que lui-même. Mais aujourd'hui, l'artiste est devenu ce qu'on appelle le plasticien. Alors, je déteste cette expression de plasticien, parce que plasticien, ça veut dire qu'il s'occupe des formes sans s'occuper forcément du contenu. Et on ne voit de l'art que le moyen, c'est-à-dire la forme de l'œuvre, et non pas le but, c'est-à-dire le sens à manifester. Or, toujours, l'artiste ou le prétendu artiste était au service d'un sens qui engageait la vie. Il était un, comme on dit en anglais, un being, c'est-à-dire quelqu'un qui est, et non pas un doing, c'est-à-dire quelqu'un qui fait. Et ce que l'artiste faisait attestait ce qu'il était et qui était le plus important. Mais aujourd'hui, tout cela s'inverse. On fait d'abord avant d'être. On s'exprime, hein, on s'exprime. Mais le problème n'est pas tant de s'exprimer que de savoir ce que l'on a à exprimer. Regardez, Redouane, aujourd'hui, le mot communication. Alors aujourd'hui, on communique. Mais qu'est-ce qu'on a à communiquer? Des mots comme plasticien, comme communication et d'autres, hein, font passer le moyen avant la fin. Et l'imposture majeure de l'époque, c'est de sacraliser ce qui n'est que moyen et d'oublier l'essentiel qui est la fin, c'est-à-dire le but, hein. C'est un signe des temps. Ce n'est pas tout d'avoir le téléphone, naguère le Minitel, maintenant Internet, le portable, etc. L'essentiel, c'est d'avoir quelque chose à dire ou à se dire. La technique toute seule ne signifie rien. Elle est vide. Elle est vide, hein. Regardez le néant, justement, des messages que l'on s'adresse sur le portable. T'es où? Tu fais quoi? Etc. C'est vraiment effarant de platitude, de banalité. Et en politique, regardez aussi, Redouane, le rôle des conseillers en communication. La communication l'emporte sur le programme aujourd'hui. Donc c'est bien un formalisme à quoi l'on assiste, non?
Oui. Non, mais tout à fait. Il faut faire simple, il faut faire populo.
Voilà,
populo dans le sens vulgaire de la chose, parce que la culture populaire est aussi extrêmement profonde et précieuse. Mais la manière, c'est une dépréciation de l'autre, de l'individu, que de faire populo.
Voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui nous avons plein de moyens de communication. Mais la communication, c'est rien par rapport au message. Enfin, les moyens ne devraient être que des moyens. Ce qui compte, c'est toujours le contenu, pour reprendre la phrase de Hegel. Mais quand on se dit n'importe quoi, il suffit d'aller sur Facebook pour voir le néant, justement, de la vie des gens qui se racontent. Aujourd'hui, j'ai fait tel gâteau, aujourd'hui, j'ai fait ceci. Ça n'a aucun intérêt. Donc, on s'imagine que l'on communique, mais les abeilles et les fourmis communiquent aussi très bien entre elles, en remuant le derrière, par exemple. Hein. Bon, tout le monde le sait, la danse des abeilles. Bon, eh bien, mais le problème, c'est d'exprimer, si vous voulez. Hein. Donc, il faudrait opposer à communication, hein, élémentaire, rudimentaire, une expression authentique. Alors, ce qui est vrai du côté de l'expression, c'est-à-dire du prétendu artiste qui prétend s'exprimer, il est aussi du côté de la réception. Je peux percevoir, par exemple, un tableau comme un ensemble de couleurs sur une surface plane en un certain ordre assemblé. C'est la définition de Maurice Denis, c'est-à-dire un peintre de la fin du 19e siècle qui appartient au mouvement des nabis ou des prophètes. Hein. Bon, nabi c'est prophète en hébreu. Hein. Donc, est-ce qu'un tableau ce n'est que cela, hein? Si je définis comme des couleurs assemblées sur une toile dans un certain ordre, je fais l'impasse sur toute la culture, sur tout le passé, et le regard que je peux porter sur l'œuvre sera amnésique. Totalement déculturé. N'oubliez pas que la définition de Maurice Denis s'applique autant aux décorateurs qu'aux peintres. Hein. Et aujourd'hui, la plupart des gens, ou au moins beaucoup, hein, n'ont de l'art qu'une conception décorative, c'est-à-dire strictement formelle. André Malraux, par exemple, l'a bien montré. Un homme qui ne connaîtrait des œuvres du passé que les caractéristiques formelles serait le type parfait du barbare moderne, c'est-à-dire celui dont la barbarie ne se définirait plus par le refus de la cité, mais par celui de la qualité humaine. La surdité, disait Nietzsche, n'est pas la meilleure façon d'entendre la musique, vous voyez. Entendons-nous bien sur ce mot décoration. L'art ne devient pas décoratif forcément par le fait de décorer, mais quand il devient décoratif, quand il s'adresse simplement au plaisir rétinien, s'agissant des arts plastiques, c'est-à-dire à l'œil, si vous voulez. Hein. Or, l'art, Vinci l'a dit à propos de la peinture, c'est toujours une causa mentale, on l'a dit depuis le début de nos émissions, hein, Redouane, comme la culture, chose mentale. En fait, l'art, c'est une relation entre une forme et une signification, un contenu. Et le contenu, il est forcément de nature humaine, il a rapport à des valeurs. Alors, comme on le dit en termes savants, c'est un contenu de nature axiologique. Bon, je m'excuse pour ce mot savant, ça veut dire qu'il y a rapport aux valeurs, à des valeurs. Hein. Ces valeurs sont celles d'une culture ou d'un individu. Et Hermann Broch, qui est un grand théoricien allemand, disait que l'art n'avait de sens que par rapport à une éthique. Hein. Et s'il n'y a qu'esthétique et non pas éthique, alors il y a kitsch, précisément. Même Godard, qui a fait des expérimentations formelles, a dit « le travelling est une question de morale hein, », c'est-à-dire qu'il doit être subordonné à quelque chose de plus important que lui. Donc le kitsch, c'est le fait de ne recevoir des œuvres que le contenu formel. Et vouloir percevoir des formes hors de leur signification serait un singulier aplatissement. Donc j'engage les auditeurs à lire les livres aussi de Pierre Francastel. C'est un grand esthéticien qui a bien mis en évidence que le contenu de l'œuvre plastique, par exemple, n'est pas optique ou strictement visuel, mais mental et culturel. Et aujourd'hui, il y a fâcheusement une idolâtrie du regard vierge et ce que j'appellerais un académisme sauvage, qui sont très répandus aujourd'hui et qui, dans la matière, sont catastrophiques. Prenez par exemple un tableau comme « Le nouveau-né » de Georges de Latour, que l'on trouve au musée de Rennes. Magnifique tableau. Eh bien, ce tableau ne me montre pas seulement une œuvre cubiste ou pré-cubiste, bien que les formes employées par Georges de Latour semble anticiper la sphère, le cône, enfin, ce que les cubistes découvriront bien plus tard. Mais n'oubliez pas que c'est aussi une nativité, la naissance du Christ ou l'incarnation du Verbe. Et c'est quelque chose de symbolique. Hein. Tout le mystère de l'incarnation, qui est le fondement de tout le christianisme, est contenu dans cette œuvre. Donc imaginons un plasticien commentant ce tableau et qu'il ferait visiter à des élèves, par exemple, il disait « Regardez les couleurs, l'orange de la robe, la façon dont les formes sont traitées, je le répète, à la façon précubiste », eh bien il oublierait l'essentiel, hein, qui est la manifestation d'une incarnation. Donc, ce tableau n'est pas qu'une œuvre plastique ou une œuvre d'art ou une œuvre esthétique. C'est quelque chose de plus important que cela. Valéry a dit l'essentiel là-dessus. Hein. Il a dit « L'art, c'est une relation d'un formel et d'un significatif. » Dans ses cahiers, dans la section « Art et esthétique », c'est-à-dire que il faut qu'il y ait signification. Il n'y a pas seulement forme. Redouane, par exemple, quand on donne des crayons de couleur à un enfant, on lui dit « exprime-toi ». Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gribouiller. Bon, c'est très bien, je veux dire, je n'ai rien contre. Mais je pense quand même que s'il dessine son papa, sa maman, sa maison, etc., après, l'adulte doit réfléchir avec lui sur la façon dont il voit. Et non pas
sa représentation du monde.
Sa représentation du monde, et non pas une bouillie chromatique, vous voyez hein, c'est le problème, effectivement, de l'abstraction. L'art suppose toujours une pensée derrière lui, hein, et il suppose, justement, de dépasser la forme. Alors, figurez-vous que j'ai choisi comme dernier morceau une chanson de Claude François qui s'appelle « Le musée de ma vie ». Alors, on est toujours dans le musée, hein. Alors, je viens de dénoncer le kitsch. Le kitsch, tout le monde sait ce que c'est, l'art sentimental, etc. Claude François, en général, fait des chansons kitsch. Mais dans le musée de ma vie, il dit « J'ai fait le bilan de ma vie et j'ai vu que dans ce musée, il a manqué une substance dans ma vie. Je n'ai pas assez aimé. On ne s'est pas assez aimé dans le musée de ma vie. » Alors, le problème que je pose aux auditeurs, cette chanson qu'ils vont entendre, est-elle kitsch, hein, est-elle dépourvue de substance, alors qu'elle déplore le manque de substance, justement, le manque d'amour dans une vie, ou alors on pourrait prendre le kitsch au deuxième degré, hein, et alors ça ne serait pas le kitsch, mais ce que les anglo-saxons appellent le camp, c'est-à-dire le clin d'œil, si vous voulez, hein, le fait de ne pas prendre immédiatement ce que l'on entend. Alors, c'est la première fois que je fais écouter une chanson de Claude François, « Le musée de ma vie, on ne s'y est pas assez aimé », bon, c'est très vrai, hein. Est-ce que le contenant, la forme, n'est pas au niveau du contenu? Je laisse le lecteur en juger.
L'auditeur.
Ah oui, voilà, l'auditeur. C'est un lapsus, lapsus de l'écrivain. Lapsus de l'écrivain.
Merci Michel. Donc avec vous, on a abordé aujourd'hui l'esthétique comme notion moderne. La semaine prochaine, on renverse. C'est la modernité comme esthétique.
Voilà, la modernité comme esthétique.
Et on se quitte avec Clo-Clo en vous souhaitant une bonne fin de semaine et rendez-vous, même endroit, même onde. Et à bientôt Michel, à bientôt à tous.
Au revoir à tous.
Ce soir, j'ai des regrets. C'est très bizarre. D'habitude, je n'ai pas la moindre mémoire. J'ai visité ma vie. M'amuser, je m'y suis emmené comme dans un musée. Des amours sans délire.